Allô, Elie Doumata, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole du LKP, le comité Lyonnage contre Profitation. Vous pouvez nous faire un bref historique du LKP pour rappeler aux internautes l'origine du LKP.
Le LKP est né d'une volonté commune de 48 organisations et de se mettre ensemble pour poser les problèmes, pour porter les revendications des Guadeloupéens. C'est ainsi qu'on se retrouvait début décembre à travailler ensemble, associations de défense des consommateurs, associations de défense des locataires, partis politiques, mouvements culturels, organisations politiques indépendantes et organisations de salariés, que ce soit dans la fonction publique ou de manière interprofessionnelle. On peut dire que c'était un rassemblement d'expertise. On avait l'habitude de travailler ensemble depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et on a décidé de se mettre ensemble pour poser les problèmes et pour accompagner les Guadeloupéens dans les revendications, notamment d'ordre social qui étaient posées.
Il y a quand même chez vous, j'imagine, un petit secret. Comment vous avez su, comment vous avez permis à chacun de dépasser son ego?
Mais écoutez, ça fait, comme je le disais, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, hein, et ça fait plusieurs années aussi, notamment depuis pratiquement plus de 6 ans, hein, que les organisations syndicales interprofessionnelles, on avait pris l'initiative de monter ce qu'on a appelé un programme de revendication de la classe ouvrière. Mais depuis le début des années 90, on avait déjà commencé à travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers. Donc ça n'a pas été trop difficile de se retrouver autour d'une plateforme commune. Et je crois que à partir du moment où les problèmes ont été clairement posés, chacun a vu qu'il était dans son intérêt de se mettre ensemble pour avoir le maximum de force. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est non pas l'ego de chaque organisation, mais réellement la situation générale des travailleurs et du peuple guadeloupéen.
Très bien. Aujourd'hui, en fait, il y a eu donc des polémiques judiciaires qui ont été déclenchées par l'État colonial. Il y a eu donc la déclaration du porte-parole de l'UMP, Francis Lefebvre, qui a donc dit, il y a des gens bien au LKP, mais il y a des gens qui veulent l'indépendance, mais il y a des gens qui ont des méthodes qui rappellent les méthodes des tontons Macoutes en Haïti. Il y a d'autre part une enquête judiciaire qui a été diligentée contre vous par le procureur de la République en Guadeloupe pour incitation à la haine raciale. Quand vous avez dit que les entreprises qui ne voudront pas signer l'accord devront quitter la Guadeloupe et que l'on ne laissera pas les béquets rétablir l'esclavage. Comment avez-vous reçu cette déclaration de M. Lefebvre? Est-ce que vous y voyez une attaque personnelle ou autre chose, une incitation à la guerre civile ou les deux?
Non, disons qu'on constate avec regret que M. Lefebvre connaît très mal l'histoire des Antilles, connaît très mal l'histoire d'Haïti, connaît très mal l'histoire de France, parce qu'il saurait que c'est le régime des Tonton Macoute a été soutenu, instauré, soutenu, financé par le gouvernement français en Haïti. Et quand il dit ça, je crois que là, par contre, c'est véritablement une incitation à la haine raciale, parce que s'il a pris cette et qu'il a fait cette métaphore vis-à-vis de nous, c'est bien parce que nous sommes noirs. Et c'est véritablement une incitation à la haine raciale. Et vous avez bien vu qu'aucun tribunal, aucun procureur n'a intenté une quelconque action contre M. Lefebvre. D'ailleurs, nos avocats sont en train de travailler sur ça. Tout ça pour dire que, comme disait La Fontaine dans une de ses fables, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Deuxième chose que nous avons sur ça, je crois que interpréter les propos que j'ai tenus à l'endroit des béquets, les faire passer pour des propos racistes, je crois, relève d'une interprétation raciste. Quand vous avez dans un petit pays où il y a environ 120 000 personnes qui constituent la population active, il y a un accord sur une augmentation de salaire qui est appliqué par les petites entreprises tenues par les Guadeloupéens, et que ceux qui ont l'argent, ceux qui sont les plus puissants et qui appartiennent pour la plupart ou en quasi-totalité à la communauté dite des béquets ne veulent pas appliquer cet accord-là, ce que nous avons dit est très simple. S'ils ne veulent pas appliquer l'accord, nous sommes en grève dans toutes les entreprises qui n'appliquent pas l'accord et nous invitons la population guadeloupéenne à n'acheter ni un bonbon à la menthe ni un clou dans ces entreprises-là. Et quand en personne n'achète quoi que ce soit chez vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà le fond du problème. Et il s'agit aujourd'hui d'essayer de diaboliser le mouvement, de discréditer le mouvement pour empêcher que ce mouvement ne s'élargisse à la France entière. Mais la réalité est tout autre. La Guadeloupe est et demeure construite sur une stratification de classe et de race. Et depuis 400 ans, vous avez au sommet de la pyramide la population blanche, les béquets, les Européens, et en bas de la pyramide, les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne. et qui vit misérablement depuis 400 ans. Nous sommes dans la même configuration. Et le dire, c'est une réalité, ce n'est pas du racisme. Bien au contraire, il faut poser le problème aujourd'hui pour éviter qu'on ne tombe dans un problème racial. Il faut poser le problème aujourd'hui. On ne peut plus tolérer la discrimination raciale à l'embauche qui se fait à l'encontre des Guadeloupéens d'origine africaine et indienne. On ne peut plus tolérer que l'organigramme des entreprises ne corresponde pas à la sociologie de la population. On ne peut plus tolérer que les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne soient cantonnés au sport, soient cantonnés aux loisirs, soient cantonnés à l'élection de Miss France, par exemple, et que dans toutes les administrations, dans toutes les tous les services de l'IFA, dans toutes les grandes entreprises, eh bien, que l'encadrement soit uniquement réservé à des populations d'origine européenne. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Les Guadeloupéens ont envie de travailler, les Guadeloupéens travaillent, les Guadeloupéens sont diplômés, les Guadeloupéens sont compétents, voire super compétents. Il faut que, dans les entreprises, que ça corresponde à la sociologie de la population. Et que les entreprises en Guadeloupe ou certains cabinets de consultants qui organisent au vu de tout le monde des recrutements en France alors qu'il y a les compétences sur place, eh bien, il faut arrêter ça. Voilà le fond du problème aujourd'hui.
Très bien. Je voulais juste vous poser une question aussi par rapport à ce qui s'est passé en Martinique le vendredi 6 mars, quand le préfet a autorisé la manifestation des béquets en Martinique. Comment vous avez réagi à ça?
Écoutez, de toute façon, c'est une provocation, hein, c'est une provocation organisée par l'État et par les béquets, visant à entraîner une confrontation entre les Martiniquais. Et pour faire basculer une revendication sociale dans un affrontement racial. Et je crois que ce soit les propos de M. Lefebvre, que ce soit les propos de certains journalistes, notamment du Figaro, qui sont toujours dans le même rayon d'action, il s'agit une fois de plus de refuser de voir la réalité en face. Tout comme la Guadeloupe, la Martinique est organisée sur une stratification de race et de classe, hein, et qui n'a pas bougé depuis 400 ans.
On entend sous les ondes nationales françaises que suite aux augmentations de salaires consenties, les TPE, donc les petites entreprises, seront obligées donc de licencier, voire même de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous répondez à ces affirmations?
Eh bien, ce sont des propos qui sont totalement gratuits parce que ce sont justement les petites entreprises qui ont dit les premières joueront le jeu de l'augmentation de salaire. Et en même temps, dans le cadre de la LODEOM, demandons à l'État d'aider les petites entreprises, d'arrêter d'aider toujours les mêmes secteurs d'activité, d'aider les petites entreprises à accéder au marché public, d'aider les petites entreprises à accéder au crédit bancaire, d'aider les petites entreprises à accéder à l'ingénierie et à des matières premières à des coûts totalement compétitifs. Voilà la vérité. Ça n'a jamais été ni la CGPME, ni les entreprises du MEDEF qui ont fait des propositions, mais les petites entreprises. Et aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises qui mettent en avant des licenciements pour ne pas augmenter les salaires, alors que les petites entreprises sont prêtes à le faire. Donc là, ce n'est pas la réalité du tout, du tout.
Oui, donc la grève a été suspendue. Quels sont les acquis majeurs à partir de la revendication? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui donc des points de blocage qui pourraient en fait faire redémarrer la grève?
Écoutez, il y a un certain nombre d'avancées, hein, sur la baisse des prix. Il y a une liste de produits qui va sortir très prochainement. La baisse des prix également au niveau des crédits, certains produits bancaires, la baisse des prix au niveau du transport, au niveau de l'eau, il y a l'augmentation des salaires, mais il y a également des crédits qui sont ouverts pour aider les agriculteurs et les marins pêcheurs. Il y a un certain nombre de choses qui sont actées, hein. Mais il y a également un certain nombre de dossiers, notamment relatifs à notre histoire, aux problèmes relatifs au mai 67. Il y a des problèmes aussi relatifs à la formation, à l'éducation. Il y a des problèmes relatifs à l'environnement, notamment au chlordécone, qui ne sont toujours pas réglés et qui font l'objet de différentes rencontres et de négociations dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, nous sommes toujours dans la dynamique d'une suspension du mouvement général et nous l'avions dit dès le départ. Notre plateforme de revendication est composée de trois niveaux. Un niveau relatif à l'immédiateté, les revendications immédiates, mais également des niveaux sur le moyen terme, voire le long terme, sur des dossiers qui prennent beaucoup plus de temps. Par exemple, la question des mutuelles liquidées de Guadeloupe. Alors, figurez-vous que les petites mutuelles de Guadeloupe ont été liquidées, et c'est pas moins de 65 millions d'euros qui ont été rapatriés vers la mutualité française, sans que personne ne comprenne quoi que ce soit à cette histoire-là. Et nous demandons justement que justice soit faite, et que cet argent-là soit rapatrié en Guadeloupe au bénéfice de toutes les personnes qui ont cotisé pendant des années et des années dans ces mutuelles-là.
Oui, parce qu'effectivement, parce que pendant toute la campagne menée contre le mouvement donc, par les médias, parce que c'était un peu ça, ils ont beaucoup mis l'accent sur les 200 euros et le reste a été négligé. Il y a aussi la partie de la Sahara, en fait, parce que la Sahara, c'est un peu un élément clé dans l'origine, enfin, dans le mouvement, si j'ai bien compris, avec le
Tout à
trafic.
fait, tout à fait. Alors, écoutez, la Sahara, c'est la plus petite raffinerie de France, mais c'est celle qui fait le plus gros bénéfice en pourcentage. Et ce que nous avons dénoncé dès le début, c'est que justement, il y avait une opacité au niveau de la réalité des prix des carburants en Guadeloupe, et nous nous sommes aperçus, et l'État est tombé d'accord avec nous sur ça, qu'il y avait une véritable escroquerie autour de l'établissement de ces prix, et nous avons demandé que toute la lumière soit faite d'une part, que deuxièmement, que l'on mette en Guadeloupe un véritable service public de distribution de stockage de distribution de carburant avec des prix tout à fait abordables pour les Guadeloupéens. Et troisièmement, qu'on puisse nous restituer, dans le cadre d'un fonds pour la formation professionnelle, qu'on puisse nous restituer toutes les sommes qui nous avaient été escroquées. Et c'est vrai que nous attendons de KIFEM la remise du rapport promis par M. Gigot sur justement la formation des prix du carburant pour savoir quelle était la position adoptée sur cette question.
Est-ce que la somme a été estimée, la somme qui devait être rendue?
Non, la somme n'a pas été estimée, mais nous attendons du rapport justement des réponses claires.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a la SARA, mais est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui fonctionnent de la même manière? On entend souvent dire que les Antillais sont des fainéants, mais on entend aussi qu'il y a des entreprises qui ont été coulées parce qu'il y a eu donc des groupes mafieux qui les ont fait couler. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez des éléments concrets là-dessus?
Et je crois qu'aujourd'hui, la preuve est faite, hein, il y a un certain nombre d'individus qui viennent en Guadeloupe, qui montent des entreprises, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, et puis qui quelques années après s'enrichissent et puis licencient le personnel et partent. Moi aussi, et la chose est claire aussi, qu'il y a un certain nombre de monopoles et d'abus de position dominante qui existent chez nous, notamment dans la grande distribution, et qui sont directement liés à la société de plantation. Et je crois qu'il faut que nous l'avons demandé, il faut que le gouvernement mette son nez là-dedans pour régler les problèmes de façon à ce qu'il n'y ait pas une communauté qui est en train de dominer l'ensemble de la Guadeloupe. L'illustration la plus claire, ce sont les marges exorbitantes qui existent dans la grande distribution. Comment on peut expliquer qu'un paquet de pâtes arrive à la douane à 1 euro et puisse être vendu à 1,80 € dans des commerces?
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas?
Tout à fait. Il y a donc enfin, le président de la République française, il a proposé des états généraux. Donc il a expliqué d'ailleurs en plus, il a dit je viendrai quand vous serez calme. Alors deux questions, comment est-ce que vous interprétez son silence assourdissant et sa déclaration je viendrai quand vous serez calme? Et puis, comment vous abordez les états généraux? Est-ce que qui c'est qui participe? Voilà.
Écoutez, quand il y a le feu au château, on se fout de l'écurie, hein. Donc le silence de M. Sarkozy, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ils ont suffisamment de problèmes en France pour ne pas s'occuper de l'écurie. L'écurie, c'est en l'occurrence l'outre-mer. Deuxièmement, les États généraux, personne ne sait ce que c'est. Alors c'est une tradition bien française, hein. Quand on veut tuer un problème, on crée une commission. On crée un Grenelle, on crée les États généraux. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens ont posé très clairement le problème de la discrimination raciale à la gauche, le problème de la ségrégation sociale, le problème de la domination d'une communauté sur tout un pays, le problème de la production locale. Et aujourd'hui, les réponses du gouvernement, c'est de nous inviter à des réunions thématiques sur l'évolution statutaire ou bien sur le dialogue social. C'est vraiment un décalage et ce ne sont pas du tout les réponses qu'attendent les Guadeloupéens par rapport aux problèmes qui sont posés. Une fois de plus, il s'agit de vouloir noyer le poisson et ne pas répondre aux préoccupations des Guadeloupéens.
Avez-vous été invité à ces états généraux et allez-vous y participer?
Écoutez, nous avons reçu une invitation de M. Samuel nous invitant à une réunion. Alors nous lui avons simplement dit, nous ne sommes pas allés à la réunion, nous lui avons simplement dit de nous expliquer ce que c'est.
Très bien.
Donc pour l'heure, on en parle, mais personne ne nous a dit ce que c'était que les états généraux, à quoi ça servait. Alors on lui a également dit, par téléphone, qu'il ne s'agissait pas pour nous de faire comme d'habitude, de chercher un certain nombre de personnes, cravate au cou, être assis autour d'une table et puis inventer quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, les problèmes ont été posés. Les Guadeloupéens ont été plusieurs milliers, pratiquement 100 000 personnes à descendre dans les rues. Je ne pense pas, je ne suis pas spécialiste, mais nous ne pensons pas qu'on puisse véritablement trouver les voies et les moyens pour aider les Guadeloupéens dans leur avenir en faisant 2 semaines de réunion. Je crois que ça ne s'est jamais vu et je crois qu'il faut prendre les problèmes que pose le Guadeloupéen beaucoup plus au sérieux que ça.
Pendant ces longs moments du mouvement CLKP, on a assisté à un bousculement des habitudes des habitants. On a vu progressivement le retour des marchés locaux, des marchés de viande, de poissons, des légumes. On a vu aussi l'aide des îles voisines comme la Dominique. Comment vous avez perçu ces mouvements de solidarité? Et comment les faire perdurer?
C'est une très bonne chose. D'ailleurs, au sein du LKP, il y a des associations, des syndicats de marins-pêcheurs, des syndicats d'agriculteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les communes, il y a des marchés, les habitudes alimentaires d'antan, entre guillemets, sont revenues. Et c'est une très bonne chose. Alors, nous pensons véritablement qu'il faut préserver notre espace agricole, il faut préserver les 50 000 hectares de terres agricoles qui nous restent, il faut préserver et développer la production agricole, l'élevage, l'agro-transformation et véritablement que le 200 € d'augmentation aille justement dans la production locale pour faire une richesse en Guadeloupe et non pas faire en sorte que cet argent-là aille encore vers les importateurs distributeurs. Et quant aux relations avec la Caraïbe, c'est une très bonne chose, mais malheureusement, n'étant pas un État souverain, nous ne pouvons pas aller plus loin.
Absolument. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont des fois au marché locaux et qui profitent, qui font encore de la profitation en augmentant leur prix?
Écoutez, ça se passe dans tous les pays du monde, hein. C'est aux consommateurs d'être vigilants et c'est également au pouvoir public d'être vigilant sur la question. Et nous avons obtenu de M. Gigot la mise en place de brigades dans le cadre de la direction de la répression des fraudes pour contrôler les prix. Et nous attendons justement que cette brigade-là puisse fonctionner de façon à ce que les consommateurs puissent faire remonter les informations qu'ils rencontrent sur le terrain, sur les exagérations au niveau des prix. Et ce que nous avons fait aussi dans le cadre de la plateforme qui a été signée, c'est qu'il y a des aides qui sont justement destinées aux agriculteurs et aux marins-pêcheurs pour aider ces derniers à financer leurs intrants, les produits dont ils ont besoin pour leur activité, de façon à ce que ce prix-là, cette baisse de prix, soit répercutée sur les produits agricoles et les produits de la pêche.
Quelles sont les perspectives dans les prochaines semaines, dans les prochains mois?
Écoutez, là, le LKP se structure pour avoir une dimension sur toute la Guadeloupe, avec la création de comités dans les communes. Nous allons également lancer une vaste réflexion et rencontre avec l'ensemble des Guadeloupéens, passer dans les communes pour entendre les suggestions, entendre les attentes, mais également recueillir les propositions et les idées. Donc, véritablement, être à l'écoute des Guadeloupéens pour savoir ce que les Guadeloupéens ont envie pour eux et pour leur pays. Et non pas se contenter de ce qu'on entend ici ou là, mais véritablement écouter et rencontrer les Guadeloupéens, car ce sont les Guadeloupéens qui doivent décider de ce qu'ils ont envie de faire pour eux, pour leurs enfants et pour la Guadeloupe.
Dans les mouvements de protestation en France, mais aussi plus largement en Europe, les populations réclament une action type LKP. Certains réclament même vos conseils et voire aussi votre présence. Comment vous répondez à cette demande?
Écoutez, les luttes sociales se nourrissent des luttes sociales dans d'autres pays. Hein. Et les travailleurs français, les travailleurs guadeloupéens, ce sont les mêmes travailleurs. Hein. Nous avons d'autres problèmes, entre guillemets, plus particuliers, mais nous sommes les mêmes travailleurs. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un peu d'audace. Un peu d'audace. Et très certainement abandonner l'idée d'une journée de grève par mois, mais véritablement rentrer dans une protestation sociale beaucoup plus forte. Et en votant pour une reconduction des mouvements chaque jour, de façon à bien montrer au gouvernement la détermination. Nous ne pensons pas qu'une journée d'action par mois, ça soit la formule idéale pour faire plier le gouvernement sur les justes revendications des travailleurs.
Oui, je voulais aussi, je pense aussi à Jacques Binaud, hein, qui a été assassiné. Alors, tout le monde est d'accord pour affirmer que Jacques a été assassiné, mais qui en voulait à Jacques Binaud et pourquoi? Il a eu tout
Et nous avons demandé que toute la lumière soit faite sur cette histoire-là. Pour l'heure, il n'y a pas de réponse. Il y a un certain nombre d'arrestations qui ont été opérées par les services de police, mais là, nous n'avons pas d'informations particulières sur les faits. Donc nous suivons ce dossier-là, mais nous n'avons pas d'informations particulières.
On parle donc de 3 balles de type Brennec qui ont été tirées. Est-ce que sur l'autopsie même, vous avez des précisions sur l'expertise
Non, 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 nous n'avons pas d'informations. Je crois que pour ça, il faudrait vous adresser directement au service du procureur. Nous n'avons pas d'informations particulières sur ce dossier.
D'accord. Eh bien, écoutez, Elie Doumota, je vous remercie donc pour votre thème. Et puis, nous n'hésiterons pas à vous contacter. N'hésitez pas à le contacter dès que vous avez du nouveau. Je vous remercie.
Merci.